Première partie. La cité des étoiles. Chapitre 1. Le cow-boy de comète. Le capitaine Dimitri Chandler, M2973.04.21/93.106/mars/espace-a4-3005, DIM pour les intimes, était fort ennuyé. Le message en provenance de la Terre avait mis 6 heures pour parvenir au Goliath, un remorqueur de l'espace, ici, au-delà de l'orbite de Neptune. S'il était arrivé 10 minutes plus tard, il aurait pu répondre « Désolé, on ne peut pas y aller, on vient à peine de déployer l'écran solaire ». L'excuse aurait été parfaitement admissible. On n'interrompt pas comme ça un travail qui consiste à envelopper le cœur d'une comète dans un film réfléchissant qui n'a que quelques molécules d'épaisseur, mais plusieurs kilomètres de côté. Cela dit, accéder à cette requête ridicule n'était peut-être pas une mauvaise idée. Il était déjà mal vu du côté du Soleil, bien que ce ne fût pas sa faute. Depuis 2700, soit depuis 3 siècles, on ramassait de la glace dans les anneaux de Saturne, et on la convoyait là où elle faisait défaut, vers Vénus et Mercure. Le capitaine Chandler n'avait jamais remarqué de véritable différence entre les images que brandissaient sans cesse les défenseurs du système solaire. Les images d'avant et d'après, censées étayer leurs accusations de vandalisme céleste. Mais le grand public, qui conservait un souvenir très vivace des désastres écologiques des siècles passés, en avait décidé autrement et la motion « Paix à Saturne » avait été adoptée avec une majorité confortable. En conséquence, Chandler n'était plus un voleur des anneaux, mais un cow-boy de comète. Il se trouvait donc à une certaine distance d'Alpha du Centaure à rassembler des fragments isolés de la ceinture de Kuiper. Il y avait suffisamment de glace, là, pour recouvrir Mercure et Vénus d'océans profonds de plusieurs kilomètres, mais il faudrait des siècles pour éteindre leurs fournaises et les rendre propices à la vie. Les défenseurs du système solaire continuaient, bien entendu, de protester contre cette opération, quoique avec moins de véhémence. Les millions de morts causées par le tsunami dû à la chute d'un astéroïde dans le Pacifique en 2304, et dire qu'une chute sur la Terre ferme aurait entraîné infiniment moins de dégâts, ces millions de morts donc rappelaient aux générations suivantes que l'espèce humaine avait placé trop d'œufs dans le même panier fragile. Chandler, lui, se disait que ce chargement mettrait 50 ans à atteindre sa destination, alors qu'importait une semaine de retard ? Mais il faudrait refaire tous les calculs relatifs à la rotation, au centrage de la masse et au vecteur de poussée et les envoyer par radio sur Mars aux fins de vérification. Mieux vaut ne pas se tromper dans ces calculs quand on doit envoyer des milliards de tonnes de glace sur une orbite relativement proche de la Terre. Comme tant de fois auparavant, le regard du capitaine Chandler se posa sur la vieille photographie accrochée au-dessus de son bureau. On y voyait un paquebot à 3 mâts qui semblait minuscule à côté d'un énorme iceberg menaçant, de la même façon que le Goliath semblait minuscule à l'heure présente. Il songeait souvent que seule la durée d'une longue vie séparait ce paquebot primitif, le Discovery, du vaisseau spatial du même nom qui avait atteint Jupiter. Et comment auraient réagi ces anciens explorateurs de l'Antarctique face au spectacle qui s'offrait depuis la passerelle de son vaisseau ? Ils auraient certainement été sidérés, car le mur de glace qui flottait devant le Goliath s'étendait des deux côtés à perte de vue. Et c'était une glace bien étrange, dépourvue de cette blancheur bleutée caractéristique des glaces des pôles. Elle avait même l'air sale, ce qu'elle était en réalité, car formée seulement à 90% d'eau. Le reste était une mixture de composés du carbone et du soufre, dont la plupart n'étaient stables qu'à des températures avoisinant le zéro absolu. Leur décongélation pouvait entraîner des surprises désagréables. Selon la remarque célèbre d'un astrophysicien, les comètes ont mauvaise haleine. « Capitaine à tout l'équipage !» annonça Chandler. « Il y a un petit changement de programme. » On nous a demandé de sursoir aux opérations afin d'aller reconnaître une cible repérée par le radar de la garde de l'espace. « Il y a des détails ?» demanda une voix lorsque le concert des grognements se fut éteint dans l'interphone du vaisseau. « Pas grand-chose, mais j'imagine que c'est encore un engin du comité du millénaire qu'ils ont oublié de détruire. » Nouveau grognement. tout le monde en avait marre des célébrations destinées à marquer la fin du deuxième millénaire. Il y avait eu un soupir général de soulagement lorsque, après le 1er janvier 3001, l'espèce humaine avait pu reprendre le cours normal de ses activités.
« De toute façon, ça sera probablement une fausse alerte, comme la dernière fois. On reprendra le travail aussi rapidement que possible. Terminé !»
C'était la troisième fois au cours de sa carrière que Chandler se lançait à la chasse pour des prunes. Malgré des siècles d'exploration, le système solaire recelait bien des surprises, et la garde de l'espace devait avoir de bonnes raisons pour solliciter son aide. « Espérons seulement, se dit-il, qu'aucun abruti halluciné n'ait encore aperçu l'astéroïde d'or. Si jamais il existait, ce que Chandler ne croyait pas le moins du monde, ce ne serait au mieux qu'une curiosité minéralogique, infiniment moins précieuse que la glace qu'il ramenait en direction du Soleil, afin de faire éclore la vie dans des mondes désolés. Il y avait pourtant une autre possibilité, qu'il envisageait très sérieusement. L'espèce humaine avait dispersé ses robots à des centaines d'années-lumière à travers l'espace, et le monolithe de Tycho était là pour rappeler que des civilisations plus anciennes se livraient déjà à de semblables activités. Il pouvait fort bien exister d'autres objets extraterrestres dans le système solaire, ou en transit dans ce système. La garde de l'espace devait songer à quelque chose dans ce genre-là, sinon il n'aurait pas dérouté un remorqueur de l'espace de classe 1 pour le lancer à la poursuite d'un éco-radar non identifié. 5 heures plus tard, le Goliath détecta l'écho à l'extrémité du spectre. Pourtant, même compte tenu de la distance, l'objet semblait minuscule. Mais il grandit rapidement et commença de donner la signature d'un objet métallique qui pouvait mesurer 2 mètres de long. Comme il se déplaçait sur une orbite qui s'éloignait du système solaire, Chandler se dit qu'il devait avoir affaire à un de ces innombrables déchets que l'espèce humaine avait envoyés vers les étoiles au cours du dernier millénaire. Lesquels déchets pourraient d'ailleurs, un jour ou l'autre, fournir la seule preuve de l'existence de cette même espèce humaine. Puis l'objet s'approcha suffisamment pour permettre une inspection visuelle, et le capitaine Chandler, sidéré, se rendit compte alors qu'un historien armé de la plus extrême patience étudiait encore les premiers témoignages de l'âge de l'espace. Quel dommage que les ordinateurs lui avaient donné la réponse quelques années trop tard pour les célébrations du millénaire.
« Ici Goliath, » dit Chandler à l'intention de la Terre avec dans la voix un mélange de fierté et de solennité. « Nous ramenons à bord un astronaute vieux de 1000 ans. Et je crois savoir qui c'est.